VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Mali, l'association des familles de militaires disparus se félicite aujourd'hui de la décision des autorités judiciaires de juger le chef de l'ex-junte malienne, le général Amadou Sanogo, devant les assises à Bamako à partir du 30 novembre pour assassinat et complicité d'assassinat des militaires dont les corps ont été découverts dans un charnier en 2013. Le général Sanogo, incarcéré depuis fin 2013, est inculpé dans l'affaire des Bérets Rouges, des soldats opposés au putsch de mars 2012 qui a renversé le président Amadou Toumani Touré et dont les corps ont été retrouvés en décembre 2013 dans un charnier à Diago, près de Bamako. Les Bérets Rouges avaient vainement tenté un contre-coup d'État. Nous voulons savoir comment nos pères ont été arrêtés, comment ils se sont retrouvés dans une fosse commune, a déclaré Amadou Kanté, un responsable de l'association des familles de militaires disparus. Et M. Kanté d'ajouter que son groupe veut d'un procès public, pas d'un procès bâclé. Selon le code pénal malien, le général Sanogo risque la peine de mort. En Gambie, le président Yahya Jammeh, qui brique un cinquième mandat, a finalement présenté officiellement sa candidature à la présidentielle de décembre. Comme à son habitude, il est resté égal à lui-même, Nani Talani.
C'était hier le dernier jour pour déposer son dossier de candidature. Yahya Jammeh, 51 ans, s'est acquitté de la tâche devant la commission électorale indépendante à Banjul. À sa sortie, il a déclaré « Peu importe ce que les gens disent de moi, je n'en suis pas touché. Ce scrutin à un seul tour se tiendra le 1er décembre. » Monsieur Jammeh affrontera Adama Barrow, soutenu par une coalition de l'opposition, et Mama Kondé, un transfuge du parti au pouvoir qui a créé récemment son parti. Parvenu au pouvoir par un coup d'État en 1994, Yahya Jammeh a été élu une première fois en 1996, puis constamment réélu. Son régime est accusé de disparition forcée, de harcèlement de la presse et des opposants, des accusations qu'il a régulièrement rejetées.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement menace de révoquer les fonctionnaires grévistes. Décision annoncée après le durcissement de leur mouvement par les fonctionnaires qui avaient arrêté le travail pendant 3 jours. Ces derniers, qui dénoncent une nouvelle fois les réductions dans les pensions des retraités et des veuves, menacent de reprendre la grève à partir de décembre si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Les explications de Théodore Nyania Zadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public ivoirien.
Si nos revendications ne sont pas satisfaites, comme c'est le cas au troisième jour de notre grève, parce qu'au lieu de nous appeler à la discussion, c'est plutôt des menaces que nous recevons de la part du gouvernement, des injonctions que nous recevons de la part du gouvernement, alors que nous sommes ouverts à la discussion et la grève prend fin aujourd'hui même, jeudi. Si rien n'est fait, nous allons relancer le mouvement, le durcir, le rallonger dans le temps, et cela d'ici le début du mois de décembre.
Théodore Nyania Zadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public ivoirien. Et puis en Mauritanie, les dockers du port de Nouakchott en grève depuis plus d'une semaine pour protester contre une réforme de leurs activités ont repris le travail hier pour faciliter les négociations avec les autorités mauritaniennes. Une trentaine de dockers arrêtés le 7 novembre après des heurts avec la gendarmerie ont également été libérés en milieu de semaine, a déclaré aujourd'hui à l'AFP un porte-parole des grévistes, Sidna Ould Mohamed. Le mouvement concerne une partie des dockers qui protestent contre le déchargement en ville des conteneurs et non plus au port de Nouakchott, ce qui les prive selon eux d'une substantielle source de revenus. En RDC, pas de réaction de la CENCO jusqu'à présent, la Conférence épiscopale nationale catholique, aux accusations de la frange minoritaire de l'opposition congolaise ayant convenu avec la majorité du report de la présidentielle à avril 2018, selon lesquelles les évêques catholiques entretiennent l'enlisement de la crise politique dans le pays. Le report de la présidentielle en RDC, qui devait se tenir avant fin décembre, a été décidé le 18 octobre par cette frange minoritaire de l'opposition et la majorité présidentielle à l'issue d'un dialogue national boycotté par la majeure partie de l'opposition qui, elle, réclame l'organisation de la présidentielle en 2017. La CENCO avait suspendu sa participation à ce dialogue, estimant que ses conclusions auraient dû stipuler que le président Joseph Kabila ne serait pas candidat à la prochaine présidentielle. En Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma a échappé jeudi sans surprise à une nouvelle motion de défiance déposée au Parlement par l'opposition, malgré les critiques croissantes suscitées, y compris dans son propre camp, par les affaires de corruption qui le visent. Les précisions de John Lyndon.
Au terme d'une séance électrique, le Congrès national africain de M. Zuma, qui dispose d'une majorité absolue parmi les députés, a fait barrage au texte visant son chef, qui a été rejeté par 214 voix contre 126. À la tribune du Parlement, le chef de l'Alliance démocratique a ouvert les débats en lançant une violente diatribe contre le président. Aujourd'hui, nous pouvons choisir la corruption ou nous pouvons choisir l'avenir de ce pays. Nous pouvons choisir de laisser un homme s'enrichir ou aider des millions de gens à se libérer de la pauvreté, a déclaré Mounzi Maïman. Le texte rejeté jeudi a pour origine la publication la semaine dernière d'un rapport de la médiatrice de la République qui a illustré l'influence exercée sur le gouvernement par la richissime famille Gupta avec la complicité du président.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Politique aux États-Unis, les manifestations ont continué jeudi dans plusieurs villes américaines pour un deuxième jour consécutif en vue de protester contre la victoire inattendue du républicain Donald Trump à l'élection présidentielle. Les contestataires ont exprimé la crainte de voir l'accession de l'homme d'affaires à la Maison-Blanche porter un coup aux droits civiques dans le pays. À Portland, dans l'Oregon, la manifestation a dégénéré en fin de soirée lorsque des jeunes ont jeté des projectiles sur les policiers et endommagé notamment des voitures et du mobilier public. La police de Portland a riposté en tirant des grenades lacrymogènes. Des actes de vandalisme ont aussi été rapportés à Oakland, en Californie. Cela dit, les Américains musulmans se préparent à vivre sous un nouveau président qui avait pendant sa campagne électorale proposé d'interdire l'entrée aux musulmans étrangers à la suite de plusieurs attentats terroristes aux États-Unis. Les Américains musulmans sont inquiets, Salwa Jafari.
Pour beaucoup de musulmans résidant à Dearborn, au Michigan, la victoire de Donald Trump est venue comme une surprise.
Trump a mené une campagne ancrée dans le racisme et la bigoterie. Il l'a utilisée pour avoir le soutien des électeurs et nous assistons maintenant au résultat. Et c'est une pensée effrayante.
Pour Abdallah Hamoud, nouvellement élu membre du Congrès, la nuit électorale était remplie d'émotions contradictoires.
C'est un vrai contraste. Pour la première fois dans l'histoire de Dearborn, on a élu un musulman arabo-américain de la première génération. Et à l'échelle de l'État, on soutient Trump et une présidence Trump.
Asha Noor est une activiste au centre communautaire arabe. Trump à la Maison-Blanche, c'est une image qui ne l'enchante pas.
Cela montre que le racisme et la bigoterie ont prévalu. Cela me montre que je ne vis pas dans une société post-raciale. Et cela me montre que certaines communautés ne sont pas les bienvenues dans cette société.
L'éditeur d'Arab American News, Osama Siblani, affirme que beaucoup d'Américains musulmans ont voté pour Hillary Clinton, mais n'étaient pas vraiment passionnés par sa candidature.
Pour la première fois hier, le président Barack Obama et son successeur Donald Trump se sont assis côte à côte dans le bureau ovale à la Maison-Blanche, une scène inimaginable il y a quelques jours. Ils se sont efforcés de tourner la page des mois de campagne acrimonieuse et d'afficher une volonté de travailler pour le bien de la démocratie américaine. Gabi Dorsil.
Le tête-à-tête a duré environ 90 minutes. Monsieur le Président, c'était un grand honneur d'être avec vous, a déclaré le milliardaire. Monsieur Trump s'est dit impatient de recevoir les conseils de celui qu'il avait qualifié durant la campagne de président le plus ignorant de l'histoire. De son côté, Monsieur Obama a évoqué une excellente conversation, ajoutant vouloir tout faire pour l'aider à réussir. Quelques jours avant le scrutin, Monsieur Obama, à Las Vegas, avait pourtant martelé que « nous ne pouvons pas nous permettre d'élire ce type. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » Les deux hommes, à la fin de leur entretien, se sont serrés la main et n'ont répondu à aucune question des journalistes. Ils ont même plaisanté avant de se séparer. Le républicain prendra ses fonctions le 20 janvier.
Après la Maison-Blanche, le président élu s'est aussi rendu au Congrès. Donald Trump y a rencontré notamment Paul Ryan, président de la majorité républicaine à la Chambre des représentants. Pour gouverner, Donald Trump aura besoin de l'appui du Congrès, dont les deux chambres sont dominées par les républicains. Le président élu Donald Trump s'attelle maintenant à la constitution de son équipe gouvernementale dans le cadre de la transition. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.